Les deux généraux qui se livrent une guerre depuis mi-avril ont annoncé d'être...
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 29 juin 2023. Bonjour à toutes et à tous en direct de Washington. Idrissa Sédoulia. Tout d'abord les titres. En France, 150 interpellations. Le président Emmanuel Macron convoque une cellule de crise après de nouvelles violences nocturnes déclenchées par la mort d'un adolescent tué par un policier lors d'un contrôle routier. Explosion à Khartoum au premier jour de l'Aïd al-Adha, la grande fête musulmane commémorant le sacrifice d'Abraham. Rabat rappelle son ambassadeur en Suède après qu'un exemplaire du Coran a été brûlé à Stockholm. Au Mali, au moins 13 civils tués par des djihadistes présumés dans le nord du pays. Ici aux États-Unis, pour assurer sa réélection en 2024, le président Biden fait le pari des Bidenomics. Nous expliquerons. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Donc en France, le président Emmanuel Macron a convoqué ce matin une cellule interministérielle de crise après de nouvelles violences nocturnes déclenchées par la mort d'un adolescent tué par un policier lors d'un contrôle routier. Pour faire le point avec moi en studio, Eric Manirakidza.
La situation impose le recueillement et le calme, a dit M. Macron, dénonçant des scènes de violence injustifiables, alors que débutait une cellule de crise au ministère de l'Intérieur. Des mairies, écoles et commissariats ont été incendiés ou attaqués, écrit le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin sur son compte Twitter. Il a qualifié d'insupportables ces violences contre des symboles de la République, précisant que 150 personnes ont été interpellées pendant la nuit. Les incidents se sont multipliés en France depuis la mort mardi de Naël, 17 ans, tué par balle à la suite d'un contrôle routier à Nanterre, ville du département des Hauts-de-Seine, située à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Paris. Les tensions sont allées crescendo dans la nuit de mercredi à jeudi, se propageant autour de la capitale, mais aussi à d'autres grandes villes telles que Lyon ou Toulouse. La mort de l'adolescent a suscité une forte émotion en France, du chef de l'État au capitaine de l'équipe de France de football, Kylian Mbappé. Une marche blanche se tient dans l'après-midi à Nanterre, en mémoire de Naël et à l'initiative de sa mère qui a fait part de sa révolte.
Merci. Merci Eric. Ajoutons toujours en France que le policier français auteur du tir mortel contre un Guinéen de 19 ans lors d'un contrôle routier le 14 juin dans le sud-ouest de la France a été inculpé mercredi pour homicide volontaire. Cette inculpation a été accompagnée de réquisitions de placement sous contrôle judiciaire après une interdiction de détention d'armes et une interdiction d'exercice professionnel, a annoncé hier soir la procureure de la République d'Angoulême dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide volontaire.
VOA Afrique en direct de Washington.
Des centaines de personnes ont prié pour la paix mercredi à Khartoum au premier jour de la Tabaski, la grande fête musulmane de l'Aïd al-Adha, mais des tirs et explosions ont de nouveau secoué la capitale soudanaise John Linden.
Les deux généraux qui se livrent une guerre depuis mi-avril ont annoncé des trêves unilatérales à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd, mais comme les précédentes, elles n'ont pas été respectées. Dans l'après-midi, des habitants d'Ondourmane, banlieue nord de la ville de Khartoum, ont fait état de bombardements aériens et des tirs de batteries anti-aériennes, alors que depuis plusieurs jours, les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo tentent de faire tomber la capitale. Dans un discours à la Nation mardi, le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, a appelé tous les jeunes qui le veulent à rejoindre son camp. Son appel a été largement rejeté par les civils, fatigués d'une guerre qui a transformé des villes entières en zone de guerre. Deux centaines d'autres habitants de Khartoum ont profité d'une brève accalmie mercredi pour se rendre à la prière qui marque le début des trois jours d'élite.
Le Maroc a condamné un acte offensant et irresponsable et rappelé son ambassadeur en Suède après qu'un exemplaire du Coran a été brûlé hier devant une mosquée à Stockholm lors d'une manifestation autorisée par le gouvernement suédois. Selon un communiqué officiel publié dans la nuit de mercredi à jeudi, le ministère marocain des Affaires étrangères a déclaré « Ce nouvel acte offensant et irresponsable fait fi des sentiments de plus d'un milliard de musulmans en cette période sacrée ». Du grand pèlerinage à la Mecque et de la fête bénie de l'Aïd al-Adha. L'auteur de cet autodafé, critiqué également par Ankara et Washington, est un Irakien de 37 ans ayant fui son pays en janvier dernier déjà, un extrémiste de droite suédois. Suédo-danois avait brûlé un exemplaire du Coran à proximité de l'ambassade de Turquie à Stockholm, déclenchant la colère du monde musulman. Au moins 13 civils ont été tués depuis mardi par des djihadistes présumés du groupe État islamique dans le nord du Mali, ont affirmé deux élus locaux s'exprimant sous couvert de l'anonymat. Rosine Mounezero.
Le bilan provisoire est de 13 morts, une dizaine de blessés et des centaines de personnes ont fui plusieurs villages de la commune de Gabero dans la région de Gao, a dit un élu local qui a précisé que l'armée malienne n'était pas présente sur les lieux. Une autre autorité locale affirme qu'ils ont tué plus de 17 personnes. Les régions de Gao et Menaka, plus à l'est, sont le théâtre depuis plus d'un an d'une vaste offensive du groupe État islamique au Grand Sahara. Les violences ont fait plusieurs centaines de morts civiles. Les populations se déplacent en masse vers les villes ou vers les camps, y compris de l'autre côté de la frontière avec le Niger. Le 16 juin, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a aussi exigé le retrait sans délai de la mission des Nations Unies au Mali, dénonçant son échec. Le vote du Conseil de sécurité qui devait se prononcer sur la fin de la MINUSMA, réclamé par Bamako, a reporté sa réunion à demain, vendredi.
Les rues de Freetown, capitale de la Sierra Leone, étaient calmes hier au lendemain de la prestation de serment du président Julius Maada Bio pour un second mandat malgré la contestation des résultats par son principal rival. Mercredi, jour férié en Sierra Leone pour la fête musulmane de l'Aïd, la population a vaqué à ses occupations dans le centre de Freetown. Dans un communiqué mercredi, les ambassadeurs de 5 pays occidentaux et de l'Union européenne ont exprimé leurs préoccupations sur le manque de transparence dans le processus de dépouillement, tout en appelant au dialogue pacifique pour régler les différends.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Arabie Saoudite, deux personnes dont l'assaillant ont été tuées dans un échange de coups de feu hier devant le consulat américain à Jeddah dans l'ouest du royaume. Selon les autorités, un homme s'est arrêté en voiture devant le bâtiment du consulat avant de descendre de la voiture avec une arme à la main. Les forces de sécurité ont réagi, résultant en un échange de tirs qui a tué l'assaillant, ont-elles ajouté. Un agent de la sécurité privé du consulat, un ressortissant népalais est également mort des suites de ses blessures. Un porte-parole du département d'État américain a présenté ses condoléances aux proches du garde tué. L'incident de mercredi s'est produit alors que l'Arabie Saoudite accueille le grand pèlerinage musulman qui a réuni plus de 1,8 million de fidèles à la Mecque. Une ville située à environ 70 kilomètres de Jeddah. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden, qui est engagé dans une campagne pour sa réélection en 2024, a fait le pari de tout miser sur la solidité de l'économie américaine et la relance de l'industrie des États-Unis. Elles sont, selon lui, le fruit de ses « Bidenomics », nom qu'il a donné à ses réformes lors d'un discours hier à Chicago, Mohamedou Humfa.
Le président américain s'est accordé le crédit de la reprise économique après la mise à l'arrêt par la pandémie de COVID-19, puis le dérèglement des chaînes mondiales d'approvisionnement. Les Bidenomics sont la volonté de reconstruire totalement l'économie selon trois axes fondamentaux, faire des investissements intelligents, renforcer la classe moyenne par l'éducation, aider les petites entreprises afin de renforcer la concurrence, a déclaré M. Biden. Le choix de placer l'économie au cœur de sa campagne est cependant audacieux et potentiellement risqué pour Joe Biden, alors que la première économie mondiale pourrait encore connaître la récession dans la seconde partie de l'année. Et associer son nom à Bidenomics est encore plus osé car résonnant comme les Reaganomics, référence au boom économique des années 80 sous la présidence de Ronald Reagan et qui reste la référence pour les républicains. Une enquête d'opinion réalisée en mai pour ABC et le Washington Post plaçait même l'ancien président Donald Trump 18 points devant Joe Biden sur la question de savoir qui gérait le mieux l'économie. Mais la Maison-Blanche souligne que l'inflation est sur la pente descendante et que les Bidenomics sont en train de changer les règles du jeu au bénéfice de la classe moyenne.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le FMI a approuvé une facilité élargie de crédit et de financement de 1,51 milliard de dollars et une facilité pour la résilience de 324 millions de dollars en faveur du Sénégal. Les fonds aideront à répondre aux besoins de la balance des paiements de Dakar, à remédier au déséquilibre macroéconomique et à la réduction des vulnérabilités de la dette. La justice sud-africaine estime que le refus des autorités de renouveler les permis temporaires de travail de près de 180 000 Zimbabwéens installés dans le pays est illégal et inconstitutionnel. L'Afrique du Sud, en lutte avec un chômage endémique, a durci ses réglementations en matière d'immigration ces dernières années. Terminons par les sociétés franco-américaines Technip FMC et Technip Energy, qui devront payer 209 millions d'euros d'amende pour éviter des poursuites pour corruption entre 2008 et 2012 au Ghana et en Guinée équatoriale, a affirmé la justice française mercredi. Les deux sociétés ont reconnu avoir recruté dans le cadre de projets pétroliers et gaziers un intermédiaire pour faciliter l'obtention du contrat qui faisait appel à un tiers rémunéré, un agent commercial, qui a remis une partie des fonds à des dirigeants étatiques au Ghana et en Guinée équatoriale.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Kinshasa promet la sécurité aux Jeux de la francophonie.
Oui, Kinshasa a assuré que toutes les dispositions nécessaires sont prises, surtout en matière de sécurité, pour accueillir les participants au 9e Jeu de la francophonie, prévu du 28 juillet au 6 août dans la capitale de la RDC. Les équipements sont en cours de finition, a affirmé Isidore Kwanja, directeur du Comité national des Jeux, lors d'une conférence de presse à J-30.
C'est vrai que tous les travaux à l'intérieur du stade, notamment tout ce qui touche les différentes réhabilitations de bureaux, ne seront peut-être pas finis complètement avant les Jeux. Mais pour les Jeux, les athlètes ont et auront besoin du stade qui sera prêt pour les Jeux, des vestiaires, des sanitaires. Et c'est ça qui est beaucoup plus important. Et initialement, pour tous ces travaux, si j'ai bonne mémoire, c'était 149 millions de dollars, mais pour la construction de toutes les infrastructures qui vont rester pour notre pays.
M. Kwanja précise qu'un contrat a été signé avec une entreprise privée pour la sécurité à l'intérieur des aires de jeu et que 4500 policiers seront chargés de la sécurité à l'extérieur. Plus de 3000 jeunes athlètes et artistes venus d'une quarantaine de pays sont attendus pour ces jeux qui combinent épreuves sportives et culturelles.
Transfert Édouard Mendy quitte Chelsea pour le club saoudien Al-Ahly.
Oui, l'international sénégalais qui était sous contrat avec le club anglais de Chelsea s'est engagé avec Al-Ahly. L'annonce est faite par le club saoudien, actant le dernier gros transfert en date réussi par le Royaume. Selon des médias, Al-Ahly a versé environ 18,5 millions d'euros à Chelsea pour attirer Édouard Mendy. Le Sénégalais, dépassé cette saison par Kepa Arrizabalaga dans la hiérarchie des gardiens de Chelsea, est le troisième joueur à quitter Stamford Bridge pour rejoindre le championnat saoudien en 7 intersaisons après N'Golo Kanté qui a signé à Al-Ittihad et Kalidou Koulibaly qui a signé à Al-Hilal. Mendy, 31 ans, était à Chelsea depuis l'été 2020.
Merci Yacouba.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, les réjouissances dans certains quartiers de Yaoundé ont été au centre de la fête de l'Eid al-Adha ou Tabaski, malgré un contexte économique difficile. Les musulmans ont dû débourser un peu plus que l'an dernier pour acheter le mouton à sacrifier. Notre correspondant Emmanuel Jultap a rendu visite à quelques familles à Yaoundé.
Un appareil musical distille des sonorités orientales dans une petite maison au quartier Briqueterie à Yaoundé. Djamina Daïrou s'affaire dans la cour de la maisonnée pour préparer le repas pour 30 convives.
Non, je suis en train d'arranger les trucs. On fait frire ça juste comme ça. C'est maintenant que je ne peux pas parce qu'on n'a pas apporté le mouton là vite.
Mariam Kamsoulma, la cadette est étudiante à l'université de Yaoundé 1. Elle a déjà toute la tête dans la fête.
Pour les vêtements, j'ai pris quelque chose environ 10 000 comme ça. Pour la coiffure, j'attends demain d'abord, je vais faire ça. Donc aujourd'hui, pour la première jour, on mange, on célèbre avec la famille. Demain, comme je sors là, je vais fêter dehors avec mes amis.
Manger ensemble a été un grand challenge pour la famille d'Aziz Kouoto, qui habite dans une ruelle du quartier Briqueterie. Marié et père d'un enfant, Aziz dit avoir passé la fête avec des restrictions et retenues.
On n'a pas fait grand-chose cette année. Comme c'est la fête de sacrifice, il y a des années qu'on essaie un peu de s'apprêter. Mais cette année-ci, ça a été très compliqué. Avec aussi la denrée alimentaire qui est un peu chère dans le marché. On s'est battu avec la viande de bœuf.
À quelques mètres plus loin, l'ambiance est très festive pour 10 fidèles musulmans. Ils sont autour d'un plat de mouton rôti à la braise. Adam Obouba a confié ses amis à ce moment de partage au prix d'un grand sacrifice.
Les moutons qu'on paye l'année passée à 150 000, maintenant c'est devenu à 200 000. Et ici, on est là en famille, on va manger, il y a les viandes là-bas. On a abrégé, on est tellement très bien à la mosquée. On a prié pour nous tous, Dieu nous donne le paradis et la paix dans notre pays.
Au marché du mouton, il y a encore des acheteurs de dernière minute, à l'instar d'Amadou Ali. Mais ce dernier n'est pas entièrement satisfait.
Je suis à presque à 500 000 francs de dépenses. À 500 000 francs de dépenses. Et je ne parviens même pas à avoir le mouton que je veux à mon quantité de prix. Il y a des invités qui vont venir, je vais recevoir les invités. Et il me faut au moins des bons moutons pour recevoir aussi beaucoup de gens.
La célébration de la fête de la Tabaski s'est étendue jusqu'au centre urbain de Yaoundé avec d'interminables séances de photos en famille. Les fidèles musulmans de la capitale ont encore 2 jours de fête devant eux. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Tchad, les conseillers nationaux ont voté mardi le projet de constitution soumis à l'aval par le gouvernement de transition. C'est sans suspense que 174 conseillers ont voté pour, 3 se sont abstenus et 4 conseillers qualifiés de téméraires ont voté contre le projet. Le document sera soumis au référendum en novembre prochain. Notre correspondant en Djamena, André Kotmadjingar, fait le point.
Ce projet de constitution qui prône l'État unitaire décentralisé prévoit non seulement la réhabilitation de toutes les institutions jugées budgétivores et supprimées sous le règne de Déby Père, mais aussi la création du Sénat, l'autonomisation du pouvoir judiciaire, la mise en place de l'Agence nationale de gestion des élections, entre autres. Le conseiller national Ali Kouloutou Chaïmi se réjouit de l'adoption de cette loi.
Toutes ces innovations apportent des améliorations significatives aux droits humains au Tchad et renforcent la démocratie, la transparence et la protection des droits du peuple tchadien.
Le Bloc fédéral a déposé également un projet de constitution fédérale à l'Assemblée nationale. Malheureusement, le document n'a pas été pris en compte par les conseillers nationaux.
Il n'y a que 2 options à l'heure actuelle. Soit il y a un référendum, soit il n'y en aura pas. S'il y a un référendum, c'est 2 constitutions.
Madame Lydie Biasunda, présidente du PDI, Parti pour la démocratie et l'indépendance intégrale, Parti Fédération et membre du Bloc fédéral.
C'est suicidaire du côté des apôtres de l'État unitaire, mais En même temps, nous disons que nous n'avons pas épuisé nos moyens d'action. Il faut que le gouvernement et tous les acteurs de l'État unitaire se préparent aujourd'hui que la guerre vient de commencer entre eux et nous. Mais dans tous les cas, nous savons que le gouvernement vient de signer lui-même son arrêt de mort sur tous les plans parce que ça ne passera pas. Nous allons faire des campagnes massives contre ce choix de présenter une seule constitution au référendum.
Tout en votant pour ce projet de loi, Clément Dokot Abaifuta, conseiller national, se dit surpris que le gouvernement ait présenté un seul projet de constitution qui consacre l'État unitaire décentralisé alors que les conclusions du dialogue national recommandent que la forme de l'État soit soumise au référendum.
Il fallait sauver la transition parce que je me dis si d'aventure cette transition échoue, c'est que eux et nous, nous serons responsables devant l'histoire. Maintenant, puisque cette nouvelle constitution ne fait aucun cas de la forme de l'État fédéraliste, c'est le peuple qui va donner son quitus pour un oui, pour un non. Et je crois que le président de la transition a fait une sortie pour dire il ne reste qu'au peuple à faire son choix. Mais si le contraire se produit, mais on le prendra au mot.
Pour le coordonnateur de l'organisation Tournons la page, section du Tchad, Jacques Ngarassal, en adoptant ce projet de loi, les conseillers nationaux ont violé les résolutions du dialogue national inclusif et souverain.
C'est vraiment dommage parce que pour nous, c'est une fuite en avant. Et en tant que les acteurs de la société civile, c'est le moment de se mobiliser aussi pour dire non à une telle forfaiture et à une telle mascarade. Parce que dans cette constitution, il y a beaucoup de choses encore en dehors des formes de l'État à toucher.
Selon le projet de cette nouvelle constitution, le Conseil supérieur de la magistrature sera présidé par le président de la Cour suprême. Les magistrats trouvent en cela une menace de l'indépendance de la justice et observent déjà une grève dans toutes les juridictions du pays pour exiger que le chef du Conseil supérieur de la magistrature soit élu par ses pairs pour un mandat bien déterminé et non être nommé par le président de la transition. André Kordouma Djingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Burkina Faso, de décembre 2022 à février 2023, la commune de Dassa, située à 150 km à l'ouest de Ouagadougou, a subi une dizaine d'attaques terroristes. Début 2023, l'armée burkinabé a mené une série d'opérations dans la zone, ce qui a permis de ramener la quiétude dans le centre de la commune de Dassa. De nombreuses populations qui avaient fui sont revenues. Notre correspondant Gildas Da s'est rendu sur place pour voir comment la vie y reprenait ses droits.
Un peu plus de 150 km à l'ouest de Ouaga, voici Dassa. Il y a quelques mois de cela, la commune s'était vidée de ses habitants du fait d'attaques terroristes. Les stigmates sont encore visibles. Camions et autres engins incendiés par les groupes armés terroristes et aussi des maisons qui demeurent portes closes. Là, c'est un dispositif d'antenne de réseau de téléphonie mobile qui a été dynamité par ceux qu'on appelle ici les gens de la brousse. Il aura fallu de vigoureuses opérations de l'armée en janvier de cette année pour que Dassa reprenne vie. Une bonne partie de la population qui avait fui est de retour. C'est le cas d'Hubert Bassier.
Maintenant, je dis, ça va très beau même. Voilà, maintenant, on vit bien. Sinon, avant, on ne peut même pas répéter. Tu ne peux même pas sortir au marché. Pour gagner à manger même, pour payer quelque chose, il n'y en a pas. Tous les gens là sont allés à Rio, Dougou, Ouagadougou. Mais maintenant, quand les militaires sont venus, on respire bien.
Ces jours de marché, et Dassa est en pleine effervescence. Une scène impensable il y a quelques mois à peine. Clairement, Dassa renaît. Les entrailles du marché fourmillent d'activités. Dans cette ambiance bon enfant, militaires et volontaires pour la défense de la patrie VDP sont encensés, avec en bonne place le capitaine Traoré.
On remercie le président pour ce qu'il a fait pour nous. Sinon, ça n'allait pas. Voilà, ça a été compliqué. Mais maintenant, quand on est revenu dans notre coin là, et qu'on remercie les militaires, les VDP, depuis que les militaires sont arrivés, maintenant ça va. Voilà, on n'a plus peur.
Derrière son étable, Patricia Bazongo, restauratrice, a retrouvé le sourire après avoir fui Dassa il y a quelques mois.
On était réfugiés à Rio, il y a d'autres qui sont à Kourougou, actuellement comme ça. Mais maintenant, on est revenus, mais nous qui sommes au centre là, il y a 2000. Mais ce sont ceux qui sont dans les villages là. Pour aller chercher de la nourriture aussi, c'est un problème pour eux. Quand nous tous nous sommes ici, comme il y a la sécurité là, il y a un peu du mieux. Si les VDP n'étaient pas encore là, et les militaires, je ne serais pas là ici faire. Mais c'est grâce à eux que nous tous sommes ici.
Des villages dont parle Patricia, il y a Dor, village le plus attaqué de la commune. C'est de là qu'est venu Abieta Kandolo. De temps à autre, elle retournait y chercher de quoi manger.
Mais si tu vois, tu caches. Quand tu as entendu bruit d'une moto, tu te caches. Si c'est passé, tu s'en vas enlever maïs ou bien sorgho.
Mais il y a longtemps qu'elle n'y retourne plus. Dassa, pour elle, est désormais son havre de paix. C'est en mars de cette année que l'armée a installé un détachement militaire à Dassa. Des hommes constamment en mouvement qui ont permis le retour des populations locales dans cette commune. Une présence qui permet à nouveau à la localité d'être en phase avec le message de bienvenue placardé à l'entrée de la ville, Dassa, terre d'amitié et de paix. Gildas Da, de retour de Dassa, pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Ici aux États-Unis, la commission chargée d'appliquer les règles relatives aux élections ne réglemente pas les deepfakes ou fausses informations générées par l'intelligence artificielle dans les campagnes politiques en vue de l'élection présidentielle de 2024. D'Austin au Texas, un reportage de Dina Mitchell, le récit est de Chérubin Dorsil.
Il s'agit d'une vidéo de la campagne DeSantis War Room qui, selon les experts, comprend des images fausses montrant l'ancien président Donald Trump en train de faire une accolade à son ancien conseiller médical en chef, le docteur Anthony Fauci. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, se présente contre M. Trump dans la course à l'investiture républicaine. Les images ont été examinées par Verify, qui a utilisé un moteur de recherche pour déterminer que trois d'entre elles étaient fausses. Casey Decker, reporter de Verify.
Si vous regardez de plus près les images, vous pouvez voir plus de preuves qu'elles sont générées par l'intelligence artificielle. Au lieu de dire Maison Blanche, c'est MEPAP qui est écrit. L'intelligence artificielle a souvent du mal à générer les textes précis. Dans celui-ci, il manque le pouce à la main de Trump.
Selon Lisa Gilbert, de l'organisation à but non lucratif de défense des consommateurs Public Citizen, le pouvoir de l'intelligence artificielle s'accroît, tout comme ce type d'image truquée destinée à influencer les électeurs.
L'une des choses que l'intelligence artificielle est capable de faire, en particulier l'intelligence artificielle générative, c'est de créer facilement des candidats. Il devrait en référer au Congrès.
Le groupe Public Citizen a donc demandé à la Commission électorale fédérale des États-Unis d'établir des règles pour les publicités de campagne qui utilisent de fausses images générées par ordinateur, car elles pourraient déformer les opinions politiques d'un candidat, ce qui est déjà illégal. Le 22 juin, la commission chargée d'appliquer les règles électorales a décidé de ne prendre aucune mesure. Le commissaire Alan Dickerson, nommé par l'ancien président Donald Trump, a déclaré qu'il n'était pas compétent en la matière.
Congress has given us very sharply limited authority.
Le Congrès nous a donné une autorité très limitée. Notre compétence sur ce point se limite au cas où une campagne se présente frauduleusement, comme agissant, je cite, au nom d'un autre candidat. Il devrait en référer au Congrès.
Public Citizen a qualifié cette inaction d'échec choquant, même pour une agence notoirement incapable d'agir. Lisa Gilbert estime que l'intelligence artificielle générative marque un tournant dans le domaine de la propagande électorale.
C'est un peu comme le moment où Internet a été inventé. Nous sommes sur le point de voir un océan de changement. Et imaginez que, lorsqu'Internet a été inventé, nous savions ce que nous savons aujourd'hui sur son impact et que nous avions pu créer des garde-fous pour protéger les gens à l'époque. Nous nous trouvons à ce même carrefour.
Le Congrès est actuellement saisi d'un projet de loi qui exigerait que les publicités politiques annoncent si l'intelligence artificielle générative a été utilisée pour créer l'une de leurs images ou de leurs vidéos.
Merci. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seydoudia, à la mise en onde Michel Joseph, à la console Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.